Bonsoir. Eh bien, je vais vous lire un court extrait d'un long roman. Magnifique. Alors, ça se passe dans l'espace. On vient juste de trouver un vaisseau abandonné avec dedans des elfes et un anneau maudit. Et donc, à ce moment-là, la jeune fille qui est sous la couverture, qui est verte, la couverture par la jeune fille, va découvrir qu'il y a un monde... En fait, ça se passe pas du tout dans un vaisseau spatial, hein, c'était des conneries, c'était juste pour... Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir que Cthulhu existe, hein, chose que vous ne savez peut-être pas, mais qu'il va falloir accepter un jour ou l'autre. Et donc, au fur et à mesure, elle va rencontrer des sectes de gens un peu tarés, tous fans d'une des déités du panthéon lovecraftien. Et donc, voilà, on va enchaîner à une... Elle arrive en Crète dans une sorte de communauté de hippies qui s'appelle les adorateurs de je ne sais plus, c'est moi qui ai écrit le bouquin mais je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Les satanistes de l'amour, voilà. C'est encore du sexe, hein, je suis désolé. Donc j'y vais, hein, je suis pas très doué en lecture mais je m'y mets. Après avoir déposé sa valise dans ses appartements, elle retrouve son hôte qui patientait à l'extérieur. À ses côtés, toujours aussi excitée, la jeune Célestamine Toupille, bras écartés, cheveux volants dans l'air. Elle a eu le temps de revêtir un pagne court et une tunique plus que transparente. Elle est à fond, elle est toujours comme ça ? Non, mais c'est un grand jour. Venez, les autres condisciples vous attendent. Ils ont bien du mal à contenir leur enthousiasme. Ils rejoignent une allée qui les emmène hors de la zone résidentielle, puis serpentent le long du versant d'une colline. Tout est calme, l'air nocturne et les lointaines cigales contribuent à installer une ambiance lénifiante. Ingrid profite de la douceur du climat, de la pureté de l'air, c'est apaisant et revigorant à la fois. Enfin, ils arrivent au sommet de la colline, et le chaos se déchaîne. Sylvestre lui avait bien dit que l'univers se divisait entre repos et excitation, ce n'était pas un euphémisme. À peine apparaît-elle qu'un brouillard hystérique s'élève de la prairie encaissée qui s'ouvre face à elle. Plusieurs centaines de personnes y sont répandues, certaines vêtues de toges ou de pagnes blancs, bien que la majorité soit complètement dénudée. Sur des pelouses d'une herbe verte admirablement entretenue, de nombreuses statues sont disposées anarchiquement. Dans un style néo-grec extravagant, une pléiade d'êtres entrelacés aux traits monstrueux reproduisent des scènes de copulation surnaturelle. Une dizaine de monoptères aux coupoles garnies d'appendices tortueux sont disséminés parmi les statues. Et à l'autre extrémité de la petite vallée, enchâssé dans un bois un peu trop dense pour la région, un temple monumental. La clameur qui monte de la vallée est un mélange de hurlements, d'acclamations, d'invocations, dont la superposition rend le propos incompréhensible. Seule certitude, il y a un véritable engouement, déclenché par son apparition au sommet de la colline. Les enfants de Shub-Niggurath vous souhaitent la bienvenue. Sans attendre sa réponse, Sylvestre et Célestamine entament la descente vers le nirvana de la luxure. Ingrid grimace. Elle a la nette impression de s'être fourvoyée dans une situation qu'elle risque de regretter. Elle peut toujours se dire qu'elle est le centre du pentacle et que cela lui confère une certaine immunité. Contre quoi ? Elle n'en est pas trop certaine. Elle leur emboîte le pas. Adviendra ce qui adviendra. Arrivée en bas de la colline, elle est entourée par la foule qui la couvre de compliments sur sa beauté, sa volupté charnelle, ses supposées prouesses sexuelles. Des mains la caressent, toujours avec légèreté, et une forme de respect... très présent guide les gestes. Le chemin s'ouvre devant elle, les regards la dévorent, les mots la savourent, les expressions la déshabillent. Doucement, elle progresse à travers cette foule en extase, comme si elle était une sorte d'apparition céleste. Sylvestre, toujours placé derrière elle, veille à ce que les contacts ne s'éternisent pas. Un mot doux, un simple geste et on s'efface, l'abandonnant à d'autres mains, à d'autres effleurements. Ingrid apprécie quand même moyennement d'être ainsi tripotée. Elle accélère le pas, tente d'éviter les contacts, ce qui est impossible. Au bout de son chemin de croix sensuel, elle arrive aux marches du temple. C'est un vaste bâtiment d'architecture gréco-romaine, tendance néo-n'importe quoi. Un périptère aux colonnes massives dont les chapiteaux sont ornés de pattes de chèvre qui descendent en s'élassant le long des fûts. L'entablement comme le fronton n'échappe pas à la débauche sculpturale. Hommes, femmes, boucs, chèvres et hybrides monstrueux y sont unis dans des scènes de copulation frénétique. Dernière touche monumentale, le haut du tympan s'interrompt en son milieu pour intégrer une coupole évasée qui porte une gigantesque forme approximativement sphérique constituée d'un nuage de membres humains et d'appendices caprins qui s'en échappent tels des tentacules à vide, conférant à la structure une impression de fourmillement incessant. Entre les deux colonnes centrales, une délégation de femmes et d'hommes âgés ouvre les bras pour l'accueillir. Ils sont vêtus de toges rouges où est brodé un semblant de forêt d'où émerge le même amalgame polymorphe qui repose sur le toit de l'édifice. Ingrid monte seule les marches. Pour Célestamine et Sylvestre, le chemin s'arrête là. Elle est aussitôt entourée, caressée pendant quelques minutes, et quand tout le monde a eu son content de tripotage de centre du pentacle, on l'invite révérencieusement à pénétrer l'édifice.
Ding.
Tourne la page. Dans la grande salle centrale du bâtiment, elle est conviée à prendre place sur un large fauteuil de marbre coloré entouré par les deux autres fauteuils identiques où viennent s'asseoir sur sa gauche un homme, sur sa droite une femme. Elle peut distinguer dans la clarté douce que dispensent les torches accrochées au mur une trentaine de personnes qui la dévorent du regard, les pupilles brillantes d'un désir qu'elle ne saurait identifier. Tous restent silencieux, mais leur expression est toutefois évidente. Ils attendent que le centre du pentacle s'adresse à eux. Ingrid se retrouve une nouvelle fois dans la délicate situation d'ouvrir le bal. Et même si elle a affiné sa culture de Cthulhu et consort depuis sa première rencontre avec une des factions, elle ne se sent pas plus inspirée. Pour ne pas déroger au rituel, elle lâche une ineptie. C'est quoi ce lupanard ? Elle regrette aussitôt son manque de délicatesse. Elle croise les doigts en espérant qu'il ne prendront pas la mouche. Réponse des deux maîtres de cérémonie, qui, chose insolite, s'exprime en même temps avec un synchronisme surnaturel, ce qui crée un effet stéréo assez étrange, mezzo-soprano d'un côté, baryton de l'autre. Shubnigurat est amour, les mille chevreaux sont amour, nous sommes amour. Ingrid respire, la puissance de l'amour est plus forte que la susceptibilité de ses deux hôtes, c'est une bonne chose. Le grand conseil est heureux de vous accueillir parmi nous. Les siècles défilent et nous attendons, nous, disciples de Shub-Niggurath, la chèvre noire, les mille chevreaux. Enfin, le temps est proche. Le temps est proche, répète Ingrid avec autant de ferveur qu'elle est capable d'en insuffler dans sa voix. Et là, après, ça se déchaîne. Voilà. Merci. Et merci à Elbekin et à Stéphane Plateau d'avoir organisé cette petite sauterie.